toutes et à tous, curieuses et curieux, mangeurs de mots, caresseurs de vent, esprits sauvages, enfants de n'importe quel âge, bonjour et bienvenue dans l'onde curieuse. Aujourd'hui, on prend le large à bord du Mikado, un bateau né de l'imagination de l'autrice Diane Pellin. On embarque sur la houle des mots qui remue et caresse aussi, destination la Perle Noire pour sauver Gaïa et restaurer l'équilibre du monde. On taille la zone en compagnie de Titouan, Lune, Diego et Basile, ces héros de papier. On part. Pour se retrouver peut-être, en tout cas pour ressentir à nouveau, vivre encore, aimer. On se carapate, on s'envole, on s'élance. Ciao! On va rejoindre Les Enfants de Gaïa, le dernier roman de Diane Pellin. Et son autrice, peut-être, qui, on l'espère, sera là dans quelques instants, coincée malgré elle par une roue qui est partie, on vrille. On l'espère, bientôt Diane, et aussi, on l'espère, bientôt Romane, qui va revenir dans ce plateau, enfin on ne sait plus, c'est la vie.
Tout va bien.
Mais Marie, bonjour Marie, tu es là,
Sophie, moi
nous
je suis
sommes
là.
Mardi. Et Sylvain aussi, sinon vous ne nous entendriez pas. Salut Sylvain. Et ben Marie, c'est mardi, donc c'est à toi pour l'agenda.
Alors, nous partons avec l'agenda d'Aubenas du théâtre. La pièce, c'est Robin des Bois, version de Sacha Todorov, par les enfants de l'atelier du théâtre de Vaisseau. Atelier théâtre de Vaisseau. C'est à la médiathèque d'Aubenas, 15h30, 16h30, c'est tout public dès 7 ans et l'entrée est gratuite.
Super, Robin des Bois. Merci. Voilà. Surtout, prends ton temps, hein, Marie. Vraiment, on a tout notre temps, le temps que Diane répare sa roue et arrive.
Voilà, c'est une version Sacha Todorov a adapté le texte pour théâtre pour enfants. Spécial. Médiathèque de Montpezat, toujours mercredi. C'est tiens, voilà le printemps. Des contes, des histoires en langue des signes et des chansons. Rendez-vous à 10h pour les enfants à partir de 3 ans et 11h pour les enfants à partir de 6 ans. Ça, c'est pour dire qu'on passe à jeudi. Retour à la médiathèque de Aubenas, piano vagabond. Marianne Schoendorf s'installe son piano dans le jardin de la médiathèque pour un concert en plein air. Promenade musicale sous les arbres au travers de pièces classiques Bach, Schumann, Chopin, jeudi à 18h. Accès libre tout public.
Es-tu sûre que c'est ce jeudi ?
Ah bah oui, je crois. Non, c'est possible que je me sois gourée d'un jeudi. Mais Roman et moi, donc, nous sommes trompés d'un jeudi, peut-être.
Non, peut-être pas, mais j'avais un doute.
Bon, bah, vérifier.
Jeudi, très
donc,
bien.
À vérifier si c'est ce jeudi ou l'autre jeudi, c'est juste un peu d'avance. À Prades, atelier d'écriture avec Ophélie pour jouer avec les mots. Bon moment de créativité assuré, parce que c'est un atelier d'écriture. C'est à 15h, café associatif La Petite Bulle. Participation 5 euros.
Et oui, un lieu à découvrir où il se passe plein de choses, La Petite Bulle.
Exact. Jeudi toujours à L'Argentière, le grand chamboulement de Florence Banos. C'est aussi du théâtre, festival du théâtre amateur par la compagnie des Affamés. L'histoire, c'est Glantine ou la vie d'une ado pas très populaire. Ça commence à 18h30, entrée libre au chapeau. Une petite pause. Jeudi Rosière, hein, on reste à jeudi. À la maison des associations, réunion d'information sur la réforme scolaire qui veut, à la rentrée, séparer les élèves des 6e et 5e par groupe de niveau en mathématiques et français.
Ah oui, comment s'appelle cette réforme déjà ?
Je ne sais pas, mais... Discrimination, ça s'appelle.
Oui, sans doute.
Donc la rencontre est proposée par les syndicats Sud, FCPE, SNES et FSU. C'est à 18h30, à Rosière, maison des associations.
Et c'est ouvert à tous, j'imagine, aux parents aussi, pas qu'aux professionnels de l'éducation. D'accord.
Dernière information, Chomérac, soirée immersive avec les chauves-souris, projection du film documentaire Une vie de grand rhinolof par Tanguy Stockl, suivi d'un échange avec un spécialiste des chiroptères et ensuite sortie sur le terrain accompagnés dans la nuit sur les rives de la Vérone pour observer les animaux sur place. Donc rendez-vous à 18h30 à l'espace culturel à Chaumérac et prévoyez un casse-croûte et une lampe frontale.
Eh bien merci Marie. Et oui, et bon, nous allons passer à la suite en espérant que Diane reparte sur les chapeaux de roue. On va commencer finalement d'une certaine manière cet entretien avec un groupe Vaitani, un groupe polynésien, enfin mi-alsacien, mi-tahitien, avec une chanson Wa Roa Te Tau.
Wa Roa Te Tau, to uti eira aia ui. To umira aya ui te mu no ara aui e here a pia nei ta ui i taua hira aui wa te pate te mi te huri te api ta hito Wahapi ue i tau here i tie Whaaru e ra ai a u Wahapi au i tau here au e Aturi ra ai to here I tie e a u
Tetao du groupe Vaitani, qui veut dire la source céleste en polynésien, un duo, donc je le disais, tahitien-alsacien, pour ce titre qui date de 2017, un mélange de folk, de paroles et de rythme polynésien avec un soupçon de pop et un texte qui parle d'amour ou de son absence. La force de l'amour et Tahiti pour commencer cet entretien qui va peut-être se faire par téléphone avec Diane Pellin qui vient justement de publier Les Enfants de Gaïa aux éditions Baliverne, un roman sensoriel, comme souvent chez Diane Pellin, poétique, magique et d'aventure pour les pré-ados, ados et tout adulte en devenir, qui se passe dans un lieu qui ressemble justement fortement à la Polynésie et à Tahiti en particulier. L'amour, le combat pour la terre, la magie et Tahiti, voici quelques-uns des premiers ingrédients de cet entretien. Bonjour Diane.
Bonjour.
Ça va?
Écoute, j'ai les mains dans le cambouis et ma voiture est sur un cric, mais ça va aller. Je vais parler un petit peu, puis j'essaierai de vous rejoindre juste après.
D'accord. Alors, commençons. Merci déjà de se prêter à ce difficile exercice que de parler en ayant la tête ailleurs et surtout les mains ailleurs. D'abord, je voulais poser la première question. Pourquoi, Diane, vous avez fait le choix de vous adresser pour la première fois à des jeunes lecteurs ?
Eh bien, c'était la thématique de ce roman qui, voilà, c'était un voyage, un peu d'aventure en Polynésie avec pour sous-thème, voilà, un message écologique. Et pour moi, c'était important, voilà, de m'adresser aux enfants en particulier. Et en plus, j'avais envie de travailler la magie autour de la tradition polynésienne, voilà, qui est pleine de magie. Et pour ça, je me suis dit que le lectorat jeunesse me permettrait d'explorer au mieux cette magie de la Polynésie.
La magie, en effet, est très très présente dans le roman. Une magie assez empreinte de spiritualité aussi, qui est là, hein, qui affleure dans beaucoup de pages. On parle de lumière divine. On parle beaucoup d'amour aussi. Ça, je vais en reparler. Quelle vision du monde vous vouliez partager ou vous voulez partager dans ce bouquin?
C'est l'idée du retour aux sources. Hein. On est dans un monde où tout va à 100 à l'heure, on est hyper connecté, tout est une technologie toujours de plus en plus avancée et on perd un peu ce rapport à la nature, à la terre. Et il y avait vraiment cette envie-là de reconnecter le lecteur à la sensorialité, à la beauté des instants et voilà, à la magie de la terre-mère. Donc c'était vraiment l'idée de cette écriture-là.
Mais cette magie, justement, pourquoi est-elle essentielle dans cette reconnexion?
Eh bien,
Est-ce que c'est justement Tahiti qui vous a influencé?
pardon?
Est-ce que c'est Tahiti qui vous a influencé? Oula, ça doit être en fait un exercice très schizoïde. D'être à la fois dans le bitume et à la fois sur Tahiti, je sais pas.
Oui, c'est ça. Puis il me demande des... Je suis désolée parce que j'ai des messieurs qui m'aident et qui me demandent des questions sur la voiture. Oh, alors, je suis un petit peu désemparée. Est-ce qu'on peut reprendre dans 5 minutes?
Et
Je suis désolée.
bien sûr, bien sûr. On vous laisse, on va discuter puisque j'ai la chance d'être donc avec Romane qui fait donc un stage chez nous et qui a lu aussi ce roman.
Oui, donc déjà bonjour à tous. J'ai lu que les premiers chapitres, hein, par manque de temps.
Qu'est-ce que tu en as retiré de ce livre? Parce que c'est intéressant, bon, tu es peut-être un petit peu plus âgé que les lecteurs auxquels s'adresse ce livre, quoique, tu as quoi, 16 ans?
17.
17. Comment tu as reçu ce livre? Qu'est-ce que ça t'a fait, en tout cas dans les premiers chapitres?
Déjà, la nature est omniprésente, comme dans la plupart des livres de Diane Pellin. Ensuite, de donner la parole aux enfants, c'est original. Et on voit bien deux mondes qui s'opposent. Il y a les enfants de la mer qui s'opposent aux enfants de la terre. Donc, c'est une bonne approche pour commencer. Je pense que je le continuerai par la suite.
Ouais, on lit juste le pitch. Le point de départ, la Terre est à l'agonie. Malgré les avertissements, les adultes continuent de la détruire pour accumuler toujours plus de richesses. Les enfants de la Terre et les enfants de la mer s'unissent pour sauver Gaïa. Ensemble, ils partent à la recherche de la perle noire. Elles seules peuvent rétablir l'équilibre du monde. Elles seules peuvent rétablir, pardon, l'équilibre du monde. On est vraiment là dans un monde, tu parlais des enfants, c'est même pas seulement que les enfants sont les héros de ça, mais c'est même plus que ça, les enfants sont les seuls qui peuvent sauver la Terre. Et il y a cette séparation entre le monde des adultes qui s'est complètement perdu, à part certains qu'on rencontre de-ci de-là à travers des îles, puisque c'est vraiment un roman d'aventure, hein. On est complètement dans cette optique-là, avec évidemment beaucoup d'actions, de péripéties. Et alors, je ne sais pas si Diane m'entend, c'est une question, moi, que je me pose sur le dosage entre l'équilibre de la poésie et l'aventure. Comment on dose cette écriture extrêmement poétique, extrêmement sensorielle, même pour les enfants, et voilà cette aventure. Comment on fait pour ce dosage? Mais Je ne sais pas, Diane n'est plus avec nous. Pour l'instant, on va essayer de la rappeler. Ce qui m'a marqué, c'est, je le disais, vraiment cette présence aussi de la magie, où les personnages féminins sont vraiment des magiciennes. Il y a Juliette qui peut s'apparenter aussi, Juliette, donc qui fait partie des enfants de la Terre. Les enfants de la Terre, c'est ceux qui sont dans cette partie du monde qui ressemble à la Polynésie. Juliette qui est un peu finalement comme une mystique. Il y a Lune qui a des visions et qui fait des dessins divinatoires. Il y a Lou qui arrête le temps.
Diane est en route, elle ne va pas tarder à arriver.
Oh, merci. En vrai. Ben, alors, je continue de dévoiler certaines choses. Et puis, il y a les garçons aussi qui ont peut-être un autre rapport à la magie. Bon, j'aimerais l'interroger là-dessus. Un autre rapport à la magie, mais elle est... Voilà, cette magie est toujours présente. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a intéressé, qui t'a emporté, ce côté-là ?
Oui, bien sûr. Et il y a aussi le style d'écriture qui est très poétique, très doux, très enveloppant, qui offre une immersion totale dans le monde. Peut-être que le début, il est un peu brutal parce qu'on ne sait pas trop où Diane veut en venir. Mm-hmm. Mais une fois qu'on est dedans, franchement, l'univers est très agréable et on a envie de creuser encore plus.
Oui, c'est d'emblée ce que tu m'as dit, en fait. C'est deux choses. D'abord, c'est que, voilà, au début, on ne sait pas trop où on va. Et petit à petit, les choses se mettent en place. Et puis surtout, ce que tu m'as dit tout de suite, c'est « Waouh, quelle écriture !»
L'écriture, ouais, elle est unique, elle est très atypique. Enfin, moi, j'avais commencé par lire Le Bal. Mmh. Et c'est exactement le même style d'écriture, la même forme. C'est tout en douceur, tout doux. Elle a une super belle plume, en tout cas.
Mmh. Oui, Diane Pellin, vraiment, qui travaille cette sensorialité. D'ailleurs, alors on en parlera sans doute, elle anime aussi des ateliers d'écriture régulièrement. Et là, elle a commencé tout un cycle au Taillet, un cycle d'ateliers d'écriture autour justement toujours de cette sensorialité. Et le prochain module, ce sera du 28 juin au 30 juin, un module sur le thème de la sensualité et de l'érotisme, justement, donc à destination de tout public, bien sûr, mais pour creuser ce côté sensoriel de l'écriture. On peut... j'entends... Peut-être... Non... tu me disais, toi, c'est ton deuxième roman que tu as lu de Diane Pellin. Le Bal, est-ce que tu peux nous pitcher l'histoire en quelques secondes?
Oui, bien sûr. C'est un homme qui était clown, qui est mort. Et toute l'histoire va tourner autour du deuil, de l'acceptation. Donc il a deux fils, un qui est malade mais qui guérit, et le deuxième qui s'est exilé au Canada pour justement éviter les problèmes familiaux.
Et oui,
elle est là.
Elle est là. Le bal l'a fait. Tu peux t'installer là. Et c'est pas grave. Bonjour Diane, nous sommes Bonjour. Ravis de t'accueillir. Et ce n'est pas grave si tu mets du cambouis partout. Merci d'être là.
Merci de m'accueillir.
Tu peux, alors n'hésite pas à t'approcher du micro. Okay. Voilà, vous avez en direct la tambouille interne et le cambouille interne, enfin externe. Oui, alors on discutait avec Romane, puisque Romane, qui fait un stage chez nous, a lu aussi ton livre. Donc il y a un regard aussi d'une jeune fille, alors qui est peut-être un peu plus âgée que l'âge auquel se destine. D'ailleurs, as-tu un âge? Est-ce que tu avais, parce que bon là, en quatrième de couve, c'est marqué, je pense, à partir de 10 ans. Est-ce que pour toi, enfin, est-ce qu'un auteur se dit, tiens, je vais écrire pour cette tranche d'âge, ou alors c'est plutôt, est-ce que je vais écrire pour la jeunesse de manière générale?
Oui, moi c'est plutôt ça, j'ai pas de catégorie d'âge
en tête quand j'écris. Et puis en plus, je me rends compte que même j'avais fait un conte jeunesse qui s'appelait Noah de l'autre côté, qui était vraiment là pour la jeunesse. Et j'ai des adultes qui l'ont adoré. Donc je ne limite pas. Et tous les lecteurs qui souhaitent le découvrir, je pense que peuvent s'y retrouver aussi.
On te laisse reprendre le souffle 2 secondes. Le temps pour moi de lire l'épigraphe, c'est Romane, toi qui m'as dit, mais quand même, moi cette épigraphe, elle m'interroge. C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. Une épigraphe de William Arthur Ward. Est-ce que l'amour peut tout ?
L'amour, l'envie, la foi, l'espoir, oui, tout ça, ça peut tout. Et heureusement qu'on n'est pas limité par nos peurs, nos empêchements, nos interdits, enfin les interdits, parce que c'est rarement les nôtres. Donc oui, moi j'ai beaucoup de foi en demain, en notre pouvoir, ouais.
La foi, je pense que c'est vraiment aussi au cœur de ce livre. Je parlais tout à l'heure de spiritualité. Toi, tu emploies le terme magie. La frontière est un peu floue entre les deux. Enfin, est-ce que tu...
Oui, alors magie, c'est le terme qui ouvre les portes, qui dépasse le réel. C'est dans ce sens-là que j'entends magie. Et effectivement, c'est quelque chose de spirituel, finalement. Là-bas, ils ont un rapport à la nature, plein de rituels. Donc j'en ai développé quelques-uns dans le livre, énormément de rituels sur les espaces aussi. Hein. Il y a une considération des différents espaces que la Terre nous offre, une considération de la faune et de la flore. Et tout ça amène à des rituels qui montrent le respect, la connexion à cette nature. Et donc, la magie vient... Enfin, j'aime ce mot magie parce que c'est un peu ça. C'est comment on retrouve, comment on ouvre la porte pour accéder à ce monde qui, finalement, est le nôtre.
Oui, on pourrait presque même dire poésie, d'ailleurs, en lieu et place de magie. Enfin, quand tu dis, c'est ce qui ouvre la porte vers notre monde, en fait. Relier l'invisible à l'invu et du coup le rendre visible à nouveau. Il y a, donc tu parlais pour les auditrices et les auditeurs peut-être qui nous rejoignent, de la Polynésie, de Tahiti, ce qui t'a inspiré ce récit. Il y a ce concept de mana. Est-ce que tu peux en dire un mot ?
Le mana, c'est l'énergie de la terre. Et moi, j'ai passé 2 ans et demi en Polynésie française en voilier. C'est un tour du monde que je faisais avec ma famille, avec mon fils et mon compagnon. Et j'ai vécu vraiment 2 ans et demi là-bas avec les Polynésiens, avec ce mana qui était permanent. Enfin, ils nous en parlaient. C'est pas une idée, c'est pas un concept qu'on trouve dans les livres là-bas. C'est un vécu des Polynésiens, et c'est cette énergie de la terre qu'on ressent. En plus, on la sent vraiment. Moi, je l'ai ressentie plusieurs fois, notamment en Marquise, où c'est d'une puissance incroyable, et on se sent tout petit et en même temps porté par elle.
À quel point ce voyage là-bas t'a inspiré ce livre ?
Il m'a inspiré une grande partie de cet ouvrage, donc cette culture polynésienne, cette faune et cette flore polynésienne également a été d'une grande richesse. Il y a eu aussi ce voyage sur les bateaux, avec tous ces enfants sur les bateaux, et la plupart des enfants, tous les enfants du livre existent. Donc ils sont complètement, ils sont devenus des héros sous ma plume, mais à l'origine, ces prénoms ne sortent pas de nulle part, c'est des gamins qui existent et que je connais. Donc ça a inspiré ce livre, il y a eu énormément d'inspiration de ce voyage.
Et est-ce que, Diego, je pense que c'est
mon fils,
ton fils, qui est hyper rapide. Est-ce que les caractéristiques des personnages sont plus ou moins quand même, enfin, trouvent un fond de réalité ou pas du tout ?
Oui, plus ou moins. Il y a toujours pour chacun et chacune une caractéristique, qu'elle soit physique ou au niveau du caractère. Pour certains, j'ai vraiment brodé autour. Pour d'autres, je suis plus proche de la réalité. Ça dépend des personnages.
Oui, Tahiti, juste, je voulais dire, il y a, c'est vrai, dans ce bouquin, pas mal de détails, pas mal d'informations sur la culture, la faune, la langue polynésienne. On a, alors je ne sais pas si tu as eu le loisir d'entendre la musique qui passait, une musique aussi polynésienne, on a pu entendre un tout petit peu de cette langue aussi, parce que dans ce livre, eh bien, on peut lire aussi du polynésien, du tahitien.
Du tahitien, on a choisi de traduire les titres des chapitres en tahitien. Donc c'est vrai qu'on a cette langue très chantante, très ronde, que j'aime beaucoup. Et quand on les écoute, en plus, ils ont les R qui roulent là-bas. Donc c'est vraiment très mélodieux et très, très doux à écouter. Donc on avait envie, voilà, c'est une idée de l'éditeur. C'est vrai que je l'avais pas, j'avais pas traduit. Et il m'a proposé de traduire les titres et j'ai trouvé que c'était une idée super.
Justement, en parlant de l'éditeur, est-ce que le choix de la maison d'édition a eu un impact ou pas pour vous ?
Alors, c'est une maison d'édition que je connaissais puisqu'ils avaient publié mon premier ouvrage jeunesse qui s'appelait Noah de l'autre côté en 2011. Donc, c'est une suite avec eux, une équipe formidable. C'est une toute petite maison d'édition. J'en profite pour les saluer. Donc, c'est le couple Crooks qui tient cette maison d'édition. Et j'aime beaucoup ce rapport familial avec eux. Toute la mise en forme du livre s'est faite d'une façon très simple. Ils ont répondu vraiment à toutes mes envies. Ça a été une belle aventure avec eux.
Les enfants, tu les côtoies aussi pas mal, notamment dans les ateliers. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ces ateliers d'écriture que tu mènes avec eux dans différents cadres ?
Oui, donc ça c'est mon deuxième métier puisque malheureusement on ne vit pas du roman. Très 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 peu d'auteurs peuvent vivre de leur plume, donc on a tous un travail à côté. Moi j'ai la chance d'animer des ateliers d'écriture. Une partie de mes ateliers sont en scolaire, donc de la classe primaire jusqu'au lycée. Et donc ce que j'essaie de partager dans ces ateliers, c'est vraiment de démythifier l'écriture et de la rendre accessible à tous et de leur expliquer que ce n'est pas seulement un processus littéraire et intellectuel, mais avant tout un processus émotionnel, sensoriel, et qu'il n'y a pas une bonne façon d'écrire, mais qu'il y a leur façon d'écrire. Et c'est assez magique quand on voit que dans une classe de 25, ils comprennent très vite quand on fait les partages de textes qu'effectivement, à une même consigne, il n'y en a pas un qui va prendre la même direction. Et donc c'est vraiment tout ça que j'essaie d'accompagner en atelier et que je fais toute l'année. Et ça me nourrit, ça me réjouit de partager cette liberté autour de l'écriture avec les jeunes.
Est-ce qu'il y a moins de peur, justement, avec les plus jeunes qu'avec les adultes, parce que tu mènes aussi des ateliers avec des adultes?
Oui, on va dire que les adultes ont plus de blocages dus à toute une histoire de vie, à une éducation aussi, à des empêchements, voilà, liés à tout ce qu'on a le droit d'écrire et ce qu'on n'a pas le droit d'écrire, les formats d'écriture. Leur lecture aussi, hein, les grands lecteurs ont des difficultés à écrire parce qu'ils se mettent au niveau de leurs auteurs fétiches. Et donc ça aussi, il faut lâcher tout ça. Donc en fait, le travail, il est vraiment d'abord de déconstruire le rapport à l'écriture pour beaucoup parce qu'il est malheureusement dans l'empêchement. Et à partir de là, on ouvre toutes les portes et là, c'est la magie du partage en atelier. Donc oui, il y a un petit peu plus de blocage, on dira, chez les adultes, un petit peu plus que chez les jeunes.
Justement, je me demandais, est-ce que quand on est une autrice comme toi qui écrit un roman d'aventure, parce que c'est quand même ça, c'est un roman poétique, sensoriel, je l'ai dit, mais aussi d'abord un roman d'aventure, est-ce que tu as en tête des romans d'aventure qui t'ont bercé quand toi t'étais jeune, si jamais tu en as lu? Mais je pense que...
Oui, alors aventure, moi j'étais plus dans la lecture, moi c'était plutôt Roald Dahl, des choses comme ça, des petites histoires. J'étais plus dans les histoires ordinaires, extraordinaires, c'était plutôt
avec
ce monde-là,
avec de la magie déjà.
Après voilà, il y avait peut-être un peu Jack London, tout ça, mais c'était pas mes auteurs fétiches à ce moment-là. C'est vrai que j'ai pas été bercée par une littérature de l'aventure, et d'ailleurs c'est pas mon genre de prédilection. Là, je l'ai fait pour ce roman-là, mais c'est vraiment une parenthèse. Je crois que dans ma bibliographie, j'ai aucun roman d'aventure. Donc, c'est pas mon univers au départ. Non.
Et qu'est-ce que ça t'a fait d'écrire ça ?
Ah, c'était très joyeux, très... En même temps, il n'est pas seulement joyeux, ce livre. Donc, j'ai pu garder aussi cette ligne que j'ai dans mon écriture d'aller quand même questionner des choses graves, mais il y avait cette joie et puis cette jubilation de la jeunesse, moi que j'adore et que j'entretiens dans mon quotidien, et là de pouvoir l'écrire, puisque quand j'écris des romans pour adultes, j'ai moins cette liberté de ton, de légèreté à des moments pour certaines scènes, et c'était très très agréable, oui, d'écrire pour cette jeunesse et avec cette euphorie-là.
Tu continues d'écrire, bien sûr. D'ailleurs, tu as dit en préparant l'émission qu'il y avait un prochain roman, là, que tu viens de terminer.
Oui, roman en cours d'écriture, enfin un cours d'écriture, puisque le premier jet est terminé, mais c'est toujours un long chemin chaque roman. Donc, on va dire que le premier jet est terminé. En plus, j'ai la chance d'avoir été soutenue par la DRAC Rhône-Alpes. Donc, ce roman a obtenu une bourse d'écriture de la DRAC Rhône-Alpes, ce qui est assez. Ça fait des années que j'ai essayé de l'avoir et que je ne l'ai jamais eu. Donc, là, cette année, je l'ai eu pour ce manuscrit. Donc, je suis très, très, très heureuse. Ça me conforte dans le choix de mon sujet. Et maintenant, l'étape, c'est de trouver un éditeur. Donc ça, c'est encore une étape difficile. Donc j'espère qu'il sera publié, mais en tout cas, il est écrit et je le retravaillerai sûrement avec un éditeur si j'en trouve un.
Ça, c'est... Donc tu disais, c'est quelque chose qui peut prendre du temps pour qu'on se représente. Ça peut prendre combien de temps ?
C'est très, très aléatoire. Si j'ai un coup de cœur d'un éditeur le mois prochain, eh bien, on peut mettre en route la machine. Mais même si on la met en route le mois prochain, il faut encore une année au moins pour que les livres soient en librairie, puisqu'il faut programmer une date. Les éditeurs, en ce moment, ils sont surbookés. Toutes leurs plannings sont pleins pour 2025, voire 2026 déjà. Donc, il faudra programmer une date qui ne sera peut-être pas avant 2025-2026. Et puis ensuite, il y aura tout le travail de relecture qui prend quelques mois. Donc c'est peut-être pas avant un an et demi qu'il sera en librairie, je pense.
Et est-ce qu'on peut connaître un peu le sujet, le thème de ce bouquin ?
Oui, donc c'est un texte très particulier sur une... Alors j'ai cette façon d'écrire, c'est-à-dire que j'ai une écriture qui est assez engagée, on peut dire. J'ai travaillé sur les violences conjugales, sur la prostitution des femmes. Et là, j'ai encore choisi un sujet très difficile qui est l'inceste. Donc c'est un travail romanesque. Hein. J'ai la chance d'avoir été élevée et aimée dans le respect et l'amour. J'ai pas eu de violence de mon côté. Mais effectivement, dans mes ateliers d'écriture, dans les gens que je côtoie, c'est un vrai fléau que je constate. J'ai énormément de textes sur ce sujet-là dans mes ateliers. J'ai des enfants moi-même que je veux protéger et leurs camarades dans leur classe aussi. Et il y a eu cette évidence qu'il fallait que j'écrive sur ce sujet-là. Donc c'est un travail romanesque autour de cette question de l'inceste et je travaille sur une forme assez particulière qui n'est pas un conte, mais il y a un peu de poésie et de conte dedans pour rendre l'histoire accessible et pas trop difficile à lire. Et en même temps, de parler de tout le processus. En fait, j'ai énormément étudié, j'ai passé plus de 3 mois à me documenter sur le sujet. Et donc, je travaille le processus de l'inceste de l'avant, donc l'enfance joyeuse, la tragédie et comment après les séquelles. Et ensuite, le silence, le déni de la justice, etc., de la société. Donc, c'est vraiment un travail sur 40 ans. Le roman se passe sur 40 années. C'est un gros travail temporel sur la question de l'inceste.
Et est-ce que, quand tu écris, tu as le titre oui. d'un roman en tête ?
J'ai le titre.
Est-ce qu'on peut...
Alors, c'est le titre de travail, on va dire, puisque ouais, c'est toujours après. Plusieurs étapes. Le titre de travail, c'est « Le coquelicot noir ».
Le coquelicot noir.
Oui.
Est-ce que tu fais référence à d'autres titres en littérature ?
Alors là, c'est par rapport à la symbolique du coquelicot. J'ai travaillé tout le livre avec cette symbolique-là. Il y a les chapitres qui sont aussi autour de cette symbolique-là. Le coquelicot, c'est la fleur de pavot qui endort. Donc il y a toute cette idée du sommeil autour de la question de l'inceste, hein, l'enfant qui ne peut pas parler, la société qui interdit d'en parler, c'est un tabou. En fait, l'inceste, le tabou de l'inceste n'est pas vraiment celui-là, c'est le tabou de parler de l'inceste. Là j'en parle, je suis sûre que derrière les radios, beaucoup de gens sont choqués par ce mot, ne veulent pas en parler, vont peut-être couper la radio. Et donc c'est tout ça aussi que je dénonce entre guillemets dans ce texte, c'est tout ce silence autour, plus que... Malheureusement, la tragédie de l'inceste, c'est une tragédie parce qu'il y a ce silence autour. Donc le coquelicot, c'est l'opium qui endort, en fait.
Et quand tu as écrit ce manuscrit, tu avais une playlist en tête des musiques qui t'accompagnaient ?
Alors, pour la première fois, pour chacun de mes romans, j'ai vraiment une playlist assortie avec vraiment une bande son que je mets en boucle pendant l'écriture. Et pour ce roman-là que je viens de terminer, non, j'ai vraiment laissé... j'ai d'ailleurs écrit pas mal dans le silence, c'est très rare pour moi. J'ai écrit sans musique à des moments. Et ensuite, j'avais des musiques qui passaient, mais pas forcément de musique qui était voilà, vraiment dans l'accompagnement, comme je peux le faire pour certains romans. Il y a une musique clé quand même, qui est dans le livre d'ailleurs, qui est Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, que j'ai cité dans le texte. Mais sinon, vraiment, là, pour ce livre-là, j'étais dans une autre dimension.
Merci Diane pour ta réponse, merci Romane pour la question, et j'en profite refaire un petit détour par Les Enfants de Gaïa. Est-ce que là tu avais des musiques en tête?
Les Enfants de Gaïa, idem, c'est un texte que je ne l'ai pas travaillé en musique non plus. C'est vrai que c'est étonnant pour ces deux romans-là, alors que je l'ai toujours fait, mais je me rends compte en fait dans cette aventure de l'écriture, hein, puisque ça fait maintenant 30 ans que j'écris, comment j'évolue aussi à des moments. Donc j'avais cette habitude d'écrire en musique avec des musiques systématiques pour certains romans. Et là, ben, je vois que je prends un autre chemin d'écriture. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mm-hmm. Peut-être que je vais reprendre l'écriture plus en musique. Mais Les Enfants de Gaïa, c'est pareil. Je n'avais pas de titre ou de morceaux qui m'ont accompagnée pour ce livre-là.
Mm-hmm. Et justement, quand tu as écrit Les Enfants de Gaïa, est-ce que tu as revécu d'une façon différente ton voyage?
Oui, c'était en fait beaucoup de scènes sont inspirées de scènes réelles à des moments. Hein, quand ils nagent avec les requins, les enfants, ça c'est des scènes qu'on vivait tous les jours sur le bateau. Nos enfants nageaient tous les jours avec les requins. Il y a eu les scènes de repas aussi avec tous ces fruits qu'on mangeait, qui faisaient partie de notre alimentation. Il y a beaucoup, il y a un moment donné où deux enfants jouent avec des Bernard l'ermite et ils font une course de Bernard l'ermite. Ça, c'est mon fils avec son copain Enoa. D'ailleurs, c'est les deux mêmes que j'ai mis dans l'histoire et qui font cette course de Bernard l'ermite sur le sable. Donc oui, ça m'a ramené à beaucoup de souvenirs.
Merci. L'entretien touche à sa fin. Les ateliers, j'ai dit un mot quand tu étais en route sur les prochains ateliers au Taillet pour adultes, 5 sessions.
Voilà, cet été, il n'y en a plus que 3, puisque j'en ai déjà fait 2. Donc il y aura 3 sessions, une en juillet et 2 en août.
4,
il me semble. Alors celle de fin juin, elle a été annulée.
Ah d'accord.
Donc voilà, on a annulé celle de fin juin, donc j'ai une semaine en juillet et 2 semaines en août.
En juillet, c'est sur le thème du réveil, juste
oui.
Un mot.
Réveil, en fait, tous les ateliers sont sous cette idée de réveil. Hein. L'idée, c'est de se réveiller à sa propre écriture, à sa voix intérieure et à sa façon d'écrire. Donc, le réveil, c'est plus un atelier où on va toucher à tout. La voix des mots, en juillet, on va travailler en plus la lecture des textes, un petit peu en plus. La mise en voix de chacun va travailler la lecture de son texte. Et ensuite, il y a des corps et des mots où là, on va travailler un peu en corporel avec une thématique du corps pour l'écriture.
D'accord. À chaque fois, des stages de 5 jours d'écriture, vous trouverez toutes les infos sur ton site.
Oui, ils tapent Diane Pellin sur Internet et ils trouveront mon site.
Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Diane, d'avoir réalisé l'impossible.
Merci à vous. Je vais remercier Warren et Benjamin qui m'ont aidé au bord de la route. J'en profite parce que c'était pas évident de changer cette roue en plein milieu de la route.
Merci à eux. Merci à Warren, Benjamin. Et merci à toi, Romane, pour ces questions, ton attention. Merci, Sylvain, pour la réalisation de cette émission. Et merci à vous, auditrices, auditeurs, d'être là, toujours derrière le poste. La suite des programmes sur Fréquence 7, à 15h, ce sont vos messages, vos mots d'amour peut-être, le Telex au 04 75 93 30 25, à 17h, la rediffusion de cette onde curieuse, à 18h, c'est Polémix et la voix off, avec quel sujet, Romane ?
Contre les VHS, donc c'est les violences et harcèlement sexistes et sexuels, et c'est l'épisode 5 pour faire stop au harcèlement de rue.
Voilà, de la rue à la loi, une lutte tout terrain. Donc c'est l'ami Polémix et la voix off à 18h et à 21h. On termine avec Metal Zone, la dernière de la saison. Il y aura une rediff. La semaine prochaine, mais c'est la dernière. Donc, bonne ambiance. Il s'y boit beaucoup de lait dans ce Metal Zone. Je vous invite à rester à l'écoute jusque 21h. Merci à tous. On se retrouve jeudi pour parler là aussi de la biodiversité et de la diversité du vivant avec les rencontres du vivant qui auront lieu dans le sud du département les 14 et 15 juin. Ciao. Merci.